Europe 1.
Europe 1.
16h-18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1. Vous écoutez l'équipe est sauvage, la seule émission française au rythme rapide présentée par un Suisse. À mes côtés, pour créer un cocktail explosif, un choc des mondes entre ma rigueur calviniste et sa faconde méridionale, une niçoise, Eva Rock.
Oh là là, c'est pas possible.
Bonjour Eva.
Bonjour, mais je suis très ponctuelle par exemple.
Ah, vous voyez ponctuelle.
Ah oui, tout ça.
C'est votre côté suisse.
C'est mon côté suisse.
C'est bien le seul, Eva, c'est bien le seul.
C'est les yeux
rougis que je vous ai retrouvés cet après-midi, non pas pour une fois à cause de l'alcool, mais suite à la lecture toute la nuit dernière du nouveau roman de notre invité. Mon compatriote est certainement le plus célèbre écrivain suisse. Bonjour Joël Dicker.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous cet après-midi. Vous êtes extrêmement sollicité puisque ça y est, votre nouveau roman, L'énigme de la chambre 622, est sorti hier. Depuis la vérité sur l'affaire Harry Kébert, vous abordez chaque sortie détendu, tranquillou, ou au contraire, vos chiffres de vente passés vous mettent à chaque fois encore plus la pression pour le nouveau?
Non, plutôt heureux parce que pendant très longtemps, j'ai écrit des livres que les gens ne lisaient pas. Et je dois dire que le sentiment d'avoir un livre qui est attendu, c'est pas une question de vente. Il n'y a pas une obsession de chiffres. C'est pas tellement ça. C'est vraiment le plaisir pour moi d'avoir des gens qui attendent et les messages des gens qui me disent « je me réjouis énormément, j'ai envie de lire ». Je dois dire que ça fait très plaisir.
On va parler de tout ça ensemble. Joël, juste pour vous dire à quel point c'est quand même un phénomène, Joël Dicker. J'ai votre livre, j'ai eu la chance de le recevoir en avant-première. Il traînait sur la table de la maison.
Ah, vous l'avez piqué.
Ma compagne l'a vu. J'ai entendu un cri. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais je ne le connais pas celui-là, c'est un nouveau. Elle était comme une folle. Oui, calme-toi. Je l'ai reçu en avant-première, calme-toi.
Vous êtes bête.
Vous allez nous parler de ce nouveau livre qui se passe chez nous à Genève. C'est d'ailleurs la première fois de mémoire de Genevois qu'il s'y passe quelque chose. Donc merci. Mais d'abord, je vous présente nos deux premiers concurrents pour le titre de chroniqueur du jour jusqu'ici. Puisqu'ici, à Europe 1, nous surfons sur l'ubérisation de la société en notant nos journalistes, un peu comme des livreurs de sushis. Le premier d'entre eux est pourtant un des piliers de cette rédaction. 25 ans de carte de presse, ancien correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. J'espère qu'il ne rougira pas si je dis qu'il est pour nous tous une légende.
Oui, on peut dire ça comme ça.
Visiblement, il ne rougit pas, c'est bon. Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes notre expert musique et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un instrument qui est rarement au premier plan, sauf dans le film Whiplash.
Oui, une légende du jazz qui nous a quittés il y a quelques jours, c'est le batteur Jimmy Cobb. Alors son nom ne vous dit peut-être rien.
Non.
Il a quand même participé à l'un des plus grands albums de tous les temps, le Kind of Blue de Miles Davis.
Ah oui.
Et il était le dernier survivant de cet enregistrement mythique de 59.
Votre rival du jour, Jean-Philippe, est certes une très belle femme, mais c'est avant tout une vétérinaire de haut vol. Je vous dis ça parce que je sais que vous pouvez avoir un petit côté OSS 117, macho, lourdeau avec vos collègues de sexe féminin. Là, attention Jean-Philippe, Farah Kasri, c'est d'abord 8 ans d'études.
Et puis le petit jean en cuir qui va bien.
Jamais de la vie,
hein,
d'une
encuire.
Ni fouet, ni rien.
C'est dommage.
Arrêtez vos fantasmes.
Je connais des auditeurs qui sont déçus. Aujourd'hui, Farah, vous nous parlez d'un des rares mammifères à être plus lourd que Jean-Philippe Ballas, la baleine bleue.
Oh oui, je vais vous parler de cet animal qui est estimé à 1000 milliards de dollars. Toutes les baleines, hein, toutes espèces confondues, mais vous savez que ce chiffre a été calculé par un économiste du FMI et c'est pas lié au poids de l'animal, hein, c'est plutôt lié à son impact sur l'environnement. Elles sont considérées comme une arme économique pour lutter contre le réchauffement climatique et je vous expliquerai tout ça tout à l'heure.
Eh bien merci Farah, l'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Joël Dicker dont le nouveau roman L'énigme de la chambre 622 vient de sortir qui nous accompagne cet après-midi. On va parler de ce nouveau roman, mais pour ceux qui, comme moi, ont lu tous les précédents, une phrase de vous en interview m'a totalement stupéfait sur la construction de vos romans, qui sont des enquêtes millimétrées avec des dizaines de rebondissements où tout s'imbrique parfaitement jusqu'au final. Vous dites, jusqu'aux trois quarts du roman, je ne sais pas toujours où je vais. Parfois, je me dis, est-ce que je n'ai pas passé 2 ans et demi à divaguer pour rien? Mais je démarre par cette question parce que ça paraît complètement fou quand on connaît vos romans. On a l'impression que tout est pensé du début, au contraire. En fait, non?
En fait, non, pas du tout. J'écris sans plan et pour moi, c'est un élément très important d'écrire sans plan parce que ça me met toujours dans la découverte, dans le plaisir. Tant que tous les matins, quand je me lève, je me dis « Ah mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» et que ouais. Je suis excité et que j'ai vraiment envie par cette excitation très juvénile de continuer ce livre, je me dis que voilà, que ça au moins, ça me garantit que ce livre sera un succès pour moi, c'est-à-dire pas un succès commercial ou critique ou autre, mais ce sera un succès par rapport au plaisir que ce livre m'aura donné pendant, c'est quand même 2-3 ans pendant lesquels j'écris 10-12 heures par jour. Et donc la seule valeur que je peux donner à ça, c'est le plaisir que j'ai tous les jours, sans savoir ce qui se passera ensuite avec ce livre, parce que c'est vrai que j'ai par exemple des moments où je me dis mais en fait ça va pas. Au bout d'un an ou un an et demi, je
mais c'est
dis,
ça, Joël Dicker. Joël Dicker, c'est infini. Si vous ne savez pas la fin de votre roman, vous pourriez écrire pendant 5 ou 6 ans.
Mais surtout, vous n'êtes jamais bloqué.
Oui, à quel moment vous dites que c'est la fin?
Comment vous retombez sur vos pattes?
Alors, c'est deux choses. Alors, en ce qui concerne la fin, c'est qu'à un moment donné, donc il y a un moment.
Vous en avez marre.
Début, c'est vraiment le plaisir. Non, c'est ça. Au début, je me dis c'est chouette, une histoire, c'est cool, etc. Après, tout d'un coup, au milieu, après un an et demi environ, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce que je vais? Ça fait un an et demi que je travaille dessus. J'y arriverai jamais. J'essaie de me dire, c'est pas grave, tu vas en faire un autre, etc. Et puis tout d'un coup, je vois une porte, on me disait, mais non, c'est ça. Donc je fonce en me disant, là, c'est le moment. Et là, j'ai quelques mois très sympas parce que je comprends ce qui se passe, je sais ce que je veux faire, et puis ça avance. Et puis tout d'un coup, j'arrive vers la fin du livre, donc là, je suis aux trois quarts. Et là, je me dis, ah, mais qu'est-ce que je fais? Parce que je sens que j'arrive à la fin, je sens que j'ai un peu tout dit, je sens qu'il faudrait que je m'arrête. Une partie de moi sait que quand je m'arrêterai, ça veut dire que je vais quitter ce monde un peu excitant de l'inconnu, de ne pas savoir ce qui se passe, cette découverte de mon propre livre. Et puis en même temps, une partie de moi est soulagée de se dire, bon ben, j'ai réussi quand même, je suis arrivé au bout de tout ça. Donc tous ces sentiments ensemble font me dire qu'il est peut-être temps que je m'arrête. Et puis il y a aussi ce sentiment où, parce qu'évidemment, il y a une enquête, des allers-retours, donc moi aussi dans le livre, je dois m'assurer sans cesse que plus j'avance, plus ce que j'ai fait avant correspond et fonctionne bien. Avec le livre. Et à un moment donné, on a aussi le sentiment, à force de trop vouloir reprendre et faire bien, qu'on casse tout. À force de trop limer, vous voyez, au lieu de polir et que ce soit beau, on commence à enlever trop. Et là, c'est le moment où je me dis, bon ben stop, quoi. C'est comme ça, il faut que je le laisse ici.
Il joue avec nos nerfs, mais visiblement avec les siens aussi. Mais c'est bon, l'énigme de la chambre 622 est disponible aux éditions de Fallois. Joël Dicker fait un bout de chemin avec nous cet après-midi.
Europe 1.
À suivre, et si pour lutter contre le réchauffement climatique, au lieu de planter des arbres, on avait mieux fait de planter des baleines? En effet, une baleine capte 10 fois plus de CO2 qu'un arbre, et ce n'est pas là son seul avantage. Fala Kasri nous raconte pourquoi il faut absolument protéger ces formidables cétacés, quand on pense qu'il y a encore des sagouins et des sagouines qui mangent des ailerons de baleine.
Tu peux m'en faire un sans mascarpone?
Oh, honte à vous, Eva.
Europe 1, 16h-18h,
l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Elle est dans notre émission plus qu'une simple chroniqueuse parmi d'autres, l'ambassadrice de la beauté du monde et aujourd'hui du monde marin, où le plus grand des mammifères est en danger. Un animal qui fascinait particulièrement le commandant Cousteau.
Tu entends le chant lointain des baleines chanteuses?
Merveilleux.
Non, ça c'est la sirène d'une barge de déchets toxiques.
Fala Kasri, vous êtes notre veto préféré. Et cet après-midi, vous nous expliquez pourquoi nous avons à la fois un devoir moral, évidemment, de protéger les baleines, mais aussi un intérêt concret.
Absolument. C'est vrai que les mammifères marins, comme les baleines, sont les plus grands animaux du monde. Alors juste pour vous donner un exemple, la baleine bleue mesure jusqu'à 30 mètres et pèse près de 150 tonnes. Rien que sa langue pèse entre 2 et 4 tonnes. C'est le poids d'un éléphant, vous imaginez?
Une langue qui pèse le poids d'un éléphant?
Voilà, c'est juste la langue. La langue pèse le poids d'un éléphant. Donc ces animaux qui sont quand même les plus grands animaux du monde ont la capacité d'emmagasiner du carbone et leur carcasse peut retenir 33 tonnes de gaz carbonique par an, alors qu'un arbre, lui, n'absorbe que 21 kg de CO2 par an. Donc si vous faites les comptes, on peut dire qu'une baleine fait donc le travail d'environ 1500 arbres. Et c'est ce qui, en termes économiques, lui donne de la valeur. On estime que chaque baleine vaut environ 2 millions de dollars. Alors les économistes du FMI ont calculé le prix du gaz carbonique plus la valeur écotouristique de ces cétacés.
Mais alors d'où provient leur prodigieux pouvoir?
Eh bien tout simplement de leur alimentation. Vous savez que les baleines n'ont pas de dents, contrairement à leurs cousins orques et dauphins. Elles ont plutôt des fanons pour filtrer l'eau et récupérer le krill. Et le krill, ce sont des petits crustacés qui consomment du phytoplancton. Et je vous rappelle que le phytoplancton capte 40% des émissions de gaz carbonique produits par l'homme. Tout tout en rejetant dans l'air 50% d'oxygène. Donc vous voyez, 40%, elles prennent du gaz carbonique et elles le remplacent par de l'oxygène. Donc c'est vital pour nous. Et donc les baleines, en se nourrissant du krill, elles vont avaler ce gaz carbonique, l'emmagasiner dans leur graisse. C'est un stockage qui va durer très longtemps puisqu'une baleine peut vivre jusqu'à 100 ans. Et après leur mort, quand leur corps coule au fond de l'océan, eh bien la carcasse garde ces tonnes de gaz carbonique pendant des siècles. Et le CO2 ne va pas remonter à la surface, il va progressivement être consommé par les fonds marins pour former de nouvelles niches de vie, un peu comme les troncs d'arbres morts dans les forêts.
Et les baleines ont aussi un impact indirect par leurs excréments, Farah. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Oui, absolument, les baleines. Il faut savoir que les excréments des baleines remontent à la surface. Vous savez, quand les baleines remontent à la surface, elles vont reprendre de l'oxygène et elles vont éjecter en même temps leurs excréments. Hein. Ça fait vraiment des grandes nappes de petites
gouttes.
Ah, donc
nager avec les baleines, c'est pas trop un kiff, quoi, en fait.
Pas au moment où elles remontent. Hein. Je vous déconseille aussi de nager avec les baleines parce qu'elles ont une mauvaise vision et elles peuvent vous avaler quand elles vont aspirer l'eau. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée de nager avec les baleines.
Effectivement,
quand elles libèrent leurs excréments, il faut savoir qu'elles vont libérer en même temps des quantités d'azote, de phosphore et de fer qui vont servir justement à nourrir le phytoplancton. Et il va en plus servir à absorber 37 milliards de tonnes de CO2 par an. C'est vraiment l'équivalent de 4 forêts amazoniennes. Vous voyez que c'est vraiment, l'impact est colossal. Et une grande partie de ce phytoplancton qui est consommé par le krill va être consommé à son tour par les baleines, les oiseaux marins et certains poissons et ainsi de suite. Vous voyez, c'est un cycle qui est vertueux et il n'y a pas du tout de déchets. À chaque fois, c'est recyclé. Et au total, on comptabilise la contribution fécale des baleines, en plus de ce qu'elles absorbent comme gaz carbonique, eh bien à 1,7 milliard de tonnes de CO2 qui seraient retirées de l'atmosphère chaque année grâce aux baleines. Donc c'est vraiment vital de sauver les baleines. C'est vital pour notre survie à nous, pas simplement pour les baleines.
Sauvons les baleines, c'est votre message par la Catherine. Et je vous félicite parce que vous avez placé l'expression que je n'avais jamais entendue dans une chronique, l'expression contribution fécale. J'espère que nos auditeurs l'auront bien noté. Merci Farah. Et à titre personnel, je me souviendrai toujours de l'émotion d'Eva la première fois qu'elle a vu une baleine en vrai.
Wow !
Bon, ça, en fait, c'était la fois où la première fois elle m'a vu en maillot de bain en vrai, mais c'était la même chose pour les baleines.
Europe 1.
Les
auto-vannées maintenant.
Je m'auto-tacle. Oui.
Ouais, auto-tacle.
Oui, ça fait partie de mes spécificités. Vous l'avez jamais remarqué, Eva, en 8 ans de collaboration.
C'est-à-dire que j'en prends quand même beaucoup dans la gueule.
Vous en prenez 90%, mais voilà. 10% c'est pour moi.
Ah oui, d'accord.
Les invités seront de retour en studio dès lundi et je peux vous dire qu'ils ont hâte. Ils savent que chez
mardi.
Ah pardon. Les invités seront de retour en studio mardi alors. Et je peux vous dire qu'ils ont hâte. Ils savent que chez nous, ils sont toujours bien reçus. Et vous me disiez en antenne qu'un deuxième film était dans les tuyaux.
Oui, alors le deuxième film est déjà sorti il y a quelques années. C'est un peu triste parce qu'il n'a pas eu beaucoup de spectateurs et notamment pas vous, visiblement.
En attendant, on prend des nouvelles des stars par téléphone. Aujourd'hui, un des plus grands auteurs de best-sellers dont le petit dernier vient de sortir, Joël Dicker, est avec nous en ligne.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Avant lui, les maîtres du thriller étaient globalement tous anglo-saxons et les tentatives de thriller en langue française se soldaient souvent par des échecs.
Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer.
Pardon ?
Nous avons affaire à un serial killer.
Un quoi ?
Un serial killer.
Hein ?
Un serial killer, un tueur en série.
Serial killer.
Joël Dicker a brisé la malédiction. Avec lui, page turner est un terme qui marche aussi en français. Un nouveau livre, tourneur de page, c'est ce que vous nous proposez depuis hier avec après la disparition de Stéphanie Meiler et la vérité sur l'affaire Harry Kébert, entre autres. Voici donc l'énigme de la chambre 622. Alors dans ce livre, on a du mal à démêler le réel de la fiction. Il y a beaucoup de mise en abîme. À travers votre personnage d'écrivain, qui s'appelle également Joël, vous rendez un très bel hommage à Bernard de Fallois, votre éditeur, qui est décédé en 2018. Ça commence dès la dédicace, je vous cite, « à mon éditeur, mon ami et mon maître, Bernard de Fallois, puisse tous les écrivains du monde connaître un jour un éditeur aussi exceptionnel. » Sans lui, vous le dites clairement, votre carrière n'aurait pas été la même.
Oui, c'est lui, il est le premier à avoir cru en moi. Il est le premier, alors il est celui qui a fait paraître mon tout premier roman, Les derniers jours de nos pères, qui avait été refusé par tout le monde, et les 5 romans avant ce roman-là avaient été refusés par absolument tous les éditeurs. Et donc, quand je le rencontre en juillet 2011, mes 5 premiers romans ont été refusés 30 fois, donc on est à peu près à 150 refus, si je compte bien. Et là, je me dis, bon, c'est vraiment la fin, le bout du bout du bout. Et puis, il y a eu, voilà, tout d'un coup, quelque chose qui a cliqué. Et il a vu en moi un écrivain. Et ce qui a été hyper important pour moi, c'est que, comme je vous disais, j'avais écrit depuis des années, j'écrivais, personne ne m'éditait, j'étais pas lu, et du coup, je me sentais pas écrivain. J'avais cette contradiction à l'intérieur de moi, parce que j'avais l'impression que dedans, à l'intérieur, mon identité était celle d'un écrivain, mais j'osais pas le vivre au grand jour, j'osais pas le dire, je n'osais pas me sentir comme ça, parce que je me disais, si je l'étais vraiment, on me lirait, ce qui est pas forcément vrai, hein, mais c'était le sentiment que j'avais moi. Et puis lui, Bernard, il a été le premier à croire en moi, à voir en moi un écrivain, et il est celui qui m'a permis d'affirmer, d'assurer, d'avoir, de montrer publiquement, d'oser dire que j'étais un écrivain avant le succès. Hein. Avant tout ça, il a été vraiment le premier. Il y a eu cette relation forte parce qu'il m'a permis d'être qui je sentais que j'étais à l'intérieur de moi-même.
Mais avec le recul, comment vous analysez les échecs d'avant ? Est-ce que les éditeurs vous avaient vraiment lu ? Enfin, quand on lit, par exemple, l'affaire Harry Kébert, c'est tellement bien construit, c'est tellement bien foutu. Enfin, moi, j'en lis beaucoup, hein, des bouquins. Donc, c'est vraiment, on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose d'incroyable dans ce livre. Comment c'est possible que les autres éditeurs n'aient rien vu ? Est-ce que vous avez vraiment lu ?
Mais oui, ça, je crois que oui. Mais d'abord, heureusement que les éditeurs ont refusé mes premiers livres parce que...
ça vous a bonifié.
Non, mais justement, ce sont ces refus qui m'ont permis de me dire mais qu'est-ce que je fais qui n'est pas bon ? Qu'est-ce que je fais que je dois retravailler ? Et c'est important. C'est des refus, c'est pas... Ce sont des... En tout cas, pour moi, je l'ai vraiment pris comme des moyens de faire mieux. Et puis ensuite, il y a aussi, quand un éditeur lit un texte, il faut non seulement que ce texte lui plaise, mais il faut qu'il ait envie de le défendre envers et contre tous. Et je crois que ces mêmes romans que Harry Kébert, même avec quelqu'un d'autre que Bernard, qui croyait tellement qu'il a défendu avec une conviction telle qu'il a fait le succès de ce livre. Et j'ai des éditeurs qui m'ont dit nous, on n'y aurait pas cru et tu n'aurais jamais eu le succès que tu as eu parce que voilà, il n'y avait pas ce feu sacré que lui avait. Il est allé convaincre tout le monde comme un fou, les libraires et les journalistes et tout le monde. Il a créé vraiment ce succès dans le sens où il a fait en sorte que les gens le découvrent, s'y intéressent, le lisent. Et ça, pour le faire, il faut avoir un éditeur passionné, sinon ça ne marche pas.
Et Joël Dicker, aujourd'hui, vous avez besoin de convaincre encore les éditeurs pour être publié ou maintenant c'est eux qui viennent vous chercher ?
Non, pour l'instant, je ne me pose pas la question parce que je suis toujours aux éditions de Fallois, très heureux d'y être. Il y avait une dynamique avec Bernard très agréable parce qu'on n'a pas de contrat, on n'en a jamais eu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un contrat qui disait « les 3 prochains livres, tu dois les faire chez moi ». Il me disait « écris ton livre ». S'il est bien, je le fais. Et s'il n'est pas bien, je ne le ferai pas.
Alors, dans l'énigme de la chambre 622, on imagine qu'il y a beaucoup de vous, puisqu'il y a Joël, qui est un écrivain. Est-ce qu'on va essayer de savoir ce qui est de vous ou pas de vous ? Vous dites, par exemple, vous faites dire au personnage, quand je vis l'histoire, je suis complètement happé. C'est comme si j'étais moi-même à l'intérieur du roman, dans le décor. C'est comme si j'étais dans un autre monde. Est-ce que vous fonctionnez comme ça, vous ? Est-ce que vous êtes un bonheur pour vos lecteurs, mais un enfer pour vos proches ?
Oui, mais je suis un enfer de la même façon que quand je lis, je crois que j'écris comme je lis. Et nous, lecteurs, quand on lit un roman et qu'on est pris dedans, on est dedans et on ne peut pas en sortir. Et ça, c'est un sentiment très agréable et très fort. On n'a pas envie de manger, on rate notre arrêt de bus, on est en retard, on est pris dedans, il n'y a que ça qui compte. Et ce sentiment de lecture que j'éprouve quand je lis, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire des romans aussi pour retrouver ce sentiment-là, mais d'une façon un tout petit peu différente dans la mesure où quand j'écris, j'écris un roman. Alors évidemment, je le vis comme lecteur puisque j'ai pas de plan, mais au fond, quand ce livre est fini et que des lecteurs le lisent, je considère que je n'ai fait que leur préparer des outils pour être ensuite eux les créateurs. Et pour moi, il y a une dimension de jeu entre le lecteur et l'auteur qui est très importante parce que tout ce qu'un lecteur vit quand il lit un roman, il le vit pour lui, il le crée lui. Les personnages que vous imaginez, ce sont vos personnages parce que vous les avez imaginés de façon unique. Et en ça, le lecteur a presque plus de poids que l'auteur, parce que le lecteur, il peut décider de tout. Il peut décider d'aller à l'encontre de ce qu'un auteur dit, parce qu'il peut décider que le décor n'est pas comme ça, que ce personnage est plus comme si. Il peut refermer le livre en disant « moi, j'y crois pas, moi, ça me plaît pas ». Et au moment où le lecteur referme son livre, le jeu ne marche plus. Et ça, c'est quelque chose qui me me plaît beaucoup.
Joël, vous aviez suivi le cours Florent avant de réussir dans la littérature. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que vous êtes une star de la littérature, vous pourriez jouer un rôle dans un film adapté d'un de vos...
L'adaptation de celui-là, notamment.
Dans l'adaptation de celui-ci, ouais. Par exemple, typiquement.
Alors, je crois surtout pas.
Vous avez fait quelques apparitions.
Que la série marche très très mal.
Vous avez fait quelques apparitions quand même. Hein.
Non, j'ai fait des apparitions dans la série parce que Jean-Jacques Haneau m'avait demandé ce que j'avais envie de faire et voilà, comment je voyais le projet, etc. Et je lui ai dit, bon, c'est ta série, je te laisse faire. Par contre, il y a une chose que j'aimerais beaucoup, c'est avoir un rôle de figurant de flic. Parce que j'avais envie de voir une fois ce que c'est que d'être un flic et l'uniforme, etc. Et donc, on a fait ça pour une des scènes. Et comme ça nous a fait rire, il m'a ensuite fait réapparaître dans d'autres scènes. Mais j'ai pas du tout la vocation de jouer d'abord dans une série ou un film en général, et encore moins dans une série qui serait tirée de mon livre, parce que j'aimerais bien que la série ait un petit peu de succès.
La Suisse moderne a donné au monde des arts deux stars ayant réussi, moi bien sûr, et aussi dans une moindre mesure Joël Dicker. Merci Joël d'avoir été avec nous cet après-midi. On rappelle le titre de votre nouveau roman, L'énigme de la chambre 622. Je donne une piste, Eva était dans la 623.
Non, n'importe quoi.
Merci.
Europe 1.
À suivre, il a le sens du récit et surtout une connaissance encyclopédique de la musique. Ce puriste, c'est Jean-Philippe Ballas, notre expert rock, qui durant le confinement a fait profiter tout son voisinage de ses talents de DJ exigeant.
Allez, un peu de musique.
Les Malakoffiottes lui disent merci. Cet après-midi, Jean-Philippe nous raconte Jimmy Cobb, une légende de la batterie jazz, juste après Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love sur Europe. Sowing the Seeds of Love, c'était Tears for Fears. Tears for... C'était Tears for Fears sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
La batterie est un don qui se travaille, bien sûr. Mais soit on l'a, comme le héros de Whiplash, soit comme Eva, on ne l'a pas. Lui, Jean-Philippe,
c'était pas mal.
Il l'avait.
C'était pas mal, c'était pas désolé. Voilà, c'est pas moi, c'est parce mais c'était
que disait
pas mal.
Votre prof. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'était un géant de la batterie jazz. Vous dressez aujourd'hui le portrait de Jimmy Cobb, Jean-Philippe.
Oui, je vais faire mon historien, je vais faire mon Stéphane Bern un peu. Nous sommes le 2 mars 1959 à New York et nous avons rendez-vous sur la 30e dans le studio de la maison de disques Columbia. Alors c'est un bâtiment un peu particulier parce que c'est une ancienne église réaménagée, ça donne une belle hauteur sous plafond. Et là, sous vos yeux, il y a un jeune trompettiste trentenaire qui fait déjà beaucoup parlé de lui à l'époque et qui s'appelle Miles Davis. Ah non, Mathieu Noël.
Oui.
Pardon, on siffle pas.
Pardon, j'ai sifflé sur So What.
C'est donc l'enregistrement de l'album Kind of Blue avec des musiciens recrutés par Miles Davis. Aussi exigeant avec son quintet que Mathieu Noël avec ses chroniqueurs, autant vous dire qu'on n'est pas chez les tocards. Plus sérieusement, il y a là notamment John Coltrane au saxophone. Je ne sais pas si vous imaginez quand même Miles Davis et John Coltrane
c'est
dans la même pièce.
Team, quoi.
Et il y a donc un certain Jimmy Cobb à la batterie. Alors Jimmy, il a 30 ans, il vient de Washington. Il a déjà sa petite réputation. Il accompagne des chanteuses comme Billie Holiday ou Sarah Vaughan, hein, comme ça au hasard. Alors comment vous dire, Jimmy Cobb, il est à cet album un peu ce que N'Golo Kanté est à l'équipe de France.
Ah ouais. Je vois bien.
C'est le type discret, tranquille, sauf que s'il n'est pas là, c'est plus du tout la même histoire. Écoutez, là, il joue des ballets sur ce morceau All Blues. Vous entendez, c'est ce petit frottement derrière.
Bien sûr.
Alors, si vous n'avez jamais joué de ballet sur une caisse claire, et que vous pensez que c'est facile, j'ai un petit exercice pour vous. Vous pouvez le faire à la maison, alors pas si vous êtes au volant, évidemment. Avec la main gauche, vous dessinez un cercle sur la table. Essayez, Mathieu. Un cercle sur la table, à voilà. Main gauche. Et avec la main droite, vous faites un 8.
Eh ben, c'est impossible.
Voilà.
Moi, je n'y arrive pas.
Ça, c'est un exercice d'indépendance. Et avec ça, vous arrivez à jouer du ballet. C'est un premier exercice. Alors, je sais qu'il y en a qui se disent que batteur de jazz, quand même, dans l'ensemble, ça ne va pas être très compliqué. Ça ne joue pas trop vite, ça ne joue pas trop fort.
Bon, hein.
Et là, nous pouffons tous ensemble parce qu'il faut avoir quelque chose de rare pour être un grand batteur de jazz. Un truc un peu impalpable, il faut avoir du swing, il faut mettre les bons accents sur la cymbale. Et là, vous écoutez un autre morceau de l'album Kind of Blue, c'est Freddy Freeloader. Voilà, vous entendez ce petit shabada derrière. Alors, en batterie, il y a deux écoles, il y a ceux qui barbouillent, qui en mettent pas partout, et puis il y en a ceux qui donnent les petites touches de pinceau, les petites pointes comme ça, et ça c'est typique de Jimmy Cobb. Et puis il a un truc magique cet album de Kind of Blue, c'est qu'à la fois c'est un disque de chevet pour tous les fans de jazz, et si vous n'avez jamais écouté de jazz de votre vie, eh ben, il y a différents niveaux d'écoute et vous allez adorer. Moi je pense que c'est l'un des disques que j'ai le plus offert dans ma vie, ce Kind of Blue de Miles Davis. Alors, pour comprendre l'esprit un peu cool de cet album, comme on disait à l'époque, je vous cite le maître Miles Davis, il disait « La musique, c'est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer le silence. » Et là, on comprend tout, c'est-à-dire que chacun a de la place. Et Jimmy Cobb, il laissait de la place aux autres musiciens et il les portait littéralement. Il a joué très très tard, hein. Il avait 91 ans, il est décédé dimanche. Il a joué quasiment jusqu'au bout et aujourd'hui, le style de Jimmy Cobb est même enseigné dans les écoles de batterie.
Bien écoutez, c'était effectivement, moi aussi, Kind of Blue, c'est aussi, je dois le dire, hein, mon album culte, avec évidemment la fête au village des musclés. Merci Jean-Philippe Ballas pour ponctuer de la plus belle des manières cette chronique dédiée au rythme 5 secondes de Michael Jackson. Chapeau l'artiste.
Europe 1.
Eva, je vous l'ai dit hier, entre nous, fini les coups bas. Je veux votre bien. Si vous ne souhaitez pas qu'on réécoute quelques extraits du quiz de Culture G, je comprendrai parfaitement.
D'accord. Okay.
J'en tirerai les conséquences qui s'imposent en diffusant un best-of de vos tentatives pour prononcer des noms anglais.
Avec Oprah Winfrey, Reese Witherspoon.
Reese Witherspoon.
Oui, Winterspoon. Winterspoon. Robin Thicke. Promise Tink. Non, c'est Sink. Amel Bent. Bah, Sink Tink. Comment on dit en fait en vrai?
Tu sais pas?
Amel Bent. C'est Robin Sink. Je ne sais plus.
Oui, parce que ça ne finit jamais. Oui, Eva.
Ouais. Ben, on va écouter le quiz.
Oui, c'est mieux. Hein.
Mais demain, je vais vous parler de la comédienne dont j'arrive pas à prononcer le nom.
Reese Witherspoon, c'était mon préféré. Witherspoon, la cuillère d'hiver, c'était bien trouvé. A tout de suite pour le quiz.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. Sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Je pose aujourd'hui une question simple, quoique douloureuse pour moi. Comment peut-on oser se moquer des réponses d'une personne dans un quiz de culture G quand soi-même on est à ce point une quiche? De qui?
Quoi de qui?
Le groupe.
C'est le groupe AA.
Autant pour moi. Oui, Eva, même en posant les questions, j'arrivais à me ridiculiser. Alors vous, en y répondant, je vous laisse imaginer. Alors, Maya Mazoret, vous l'aurez compris, nous aussi, à Europe 1, nous avons notre sexperte, Eva Rock. Mais qui sera la plus sexperte des deux? Réponse avec ce sex quiz, un vrai faux sur l'intimité. Une bonne réponse, un point. C'est parti. Eva Rock,
oui.
Les spermatozoïdes sont plus rapides en été ou en hiver?
En hiver, je crois. Il me semble qu'on en avait déjà parlé.
C'est-à-dire dans quel contexte?
Mais dans l'émission, oui, avec Michel Simès, me semble-t-il. Mais je crois que c'est en hiver.
C'est possible qu'avec Michel Simès, on en ait parlé. Ouais. C'est votre réponse?
Oui.
Ils sont plus rapides en hiver?
Oui.
Oui, c'est une bonne réponse. En hiver, à cette période, ils sont plus nombreux et plus rapides. 6455 échantillons de sperme ont été étudiés par l'université Ben Gurion en Israël pendant 3 ans, montrant qu'il y a des moments de l'année, effectivement, où la conception est plus simple qu'à d'autres, à savoir l'hiver. Maya Mazoret, en pourcentage, il y a plus de femmes à l'Assemblée nationale en France ou plus de femmes qui arrivent à avoir un orgasme avec pénétration?
Oh là, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'il y a quand même plus de femmes aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
C'est une bonne réponse. Il y a plus de femmes à l'Assemblée nationale aujourd'hui, 38,7%, alors que seuls 18% des femmes arrivent à l'orgasme avec pénétration. Et c'est bien peu. Alors pour y remédier, mathieu.noël@europe1.fr. Maya Mazoret. Je suis désolé. Hein. Maya Mazoret et Varoc, vous répondez en même temps. La société Bijoux Indiscrets, créateur spécialisé dans les accessoires coquins, a pris une initiative étonnante. Laquelle? 3 propositions. Ils ont créé des sextoys à l'eau bénite pour monter plus vite vers le 7e ciel. Visiblement, c'est ça qui vous plairait, Eva. Donc déjà, il y a un marché, ils peuvent le lancer. Ouais. Ils ont créé une bibliothèque des orgasmes, un site internet où les femmes peuvent envoyer un son de leur orgasme. Ou 3, ils offrent un remboursement de 45% aux hommes s'ils envoient une photo avec le bijou intime.
Non, c'est le numéro 2, il me semble.
Ah oui, moi aussi. Ouais. Moi, j'adore l'histoire de la bibliothèque d'orgasme.
Oui, mais vous avez répondu moins vite. Donc les points vont à notre invité. Eh oui, c'est aussi un test de rapidité, j'avais oublié de le dire. C'est une bibliothèque des orgasmes, c'est anonyme, on peut envoyer un orgasme sonore de 15 secondes à 5 minutes. Orgasme de 5 minutes, ça c'est beau. Écoutons, juste pour le plaisir.
Il m'a épuisé ce garçon.
Ils ont sali le son en mettant les varocs par-dessus. C'est dégueulasse. Maya Mazoret, voici 3 positions sexuelles du Kama Sutra. Laquelle est fausse? La position du cerf en rut, celle de la brouette thaïlandaise ou celle du crapaud baveux?
Le crapaud baveux, je ne connais pas ça.
Ah ouais, vous êtes vraiment une sexperte. Effectivement, le crapaud baveux n'existe pas. Pour le serre en rut, votre partenaire est derrière vous. Vous soulevez avec ses bras pendant que vous gardez vos jambes pliées. C'est important. Celle de la brouette thaïlandaise, Eva, je vous laisse l'expliquer.
Aucune des deux, j'arrive à comprendre.
Il faut poser ses pieds sur les épaules du partenaire tout en fléchissant ses jambes. Les bronzés font du ski, quoi. Le mieux, c'est d'avoir les images. Mathieu.noël@europe1.fr. Eva Rock, si on prend en compte le record du monde, qui a soulevé le poids le plus lourd? Un vagin ou un pénis?
Quelle horreur.
Pas là, vous croyez pas si bien dire.
Ah ouais. Non, j'aurais dit un pénis.
Vous auriez
dit un vagin.
Allez, heureusement que vous ne jouez pas, vous auriez perdu un point. Eva Rock, bonne réponse. Ouais. Le pénis. Tatiana Kozeknikova a soulevé 14 kilos à l'aide de son vagin, ce qui est déjà pas mal, 14 kilos. Moka Wang, qui est donc un homme, a soulevé 113 kilos.
Oula.
Avec son pénis.
Il a soulevé quoi?
Pas de photo sur le site d'Europe. Parce que là, on n'a pas envie de voir. Je ne sais pas ce qu'il a soulevé, c'est pas précisé.
Mais je peux poser une question?
Vous pouvez, mais je n'ai pas la réponse, mais vous pouvez la poser.
Comment porter un poids avec son vagin? Je ne comprends pas.
Il y a des cours de rééducation comme ça, un peu du périnée, justement à New York, où en fait, donc en mettant des espèces de boules de geisha auxquelles sont accrochés des poids, On fait un petit peu ces exercices
de renforcement du périnée.
Exactement. Voilà, en faisant un petit peu des mouvements de haut en bas avec les jambes. Et c'est pour ça que j'ai répondu le vagin, parce qu'il me semblait que justement avec le pénis, c'était peut-être plus compliqué de soulever des poids.
Ça dépend du modèle, visiblement. Jean-Philippe Ballas.
Non, je pense à tous les enfants qui nous écoutent, qui demandent à leurs parents c'est quoi une boule de geisha.
Et ben c'est comme des billes, sauf que bref.
Europe 1.
Drôle de période que celle que nous vivons. Et après 10 jours de déconfinement, c'est un moment paradoxal pour tous les parents. Entre le soulagement de voir enfin vos ados pouvoir quitter le domicile pour vous laisser souffler et l'angoisse à l'idée de les voir partir habillés comme ça. Car oui, l'été est là et votre fille de 13 ans a décidé de sortir en mini-short moulant et t-shirt exhibiteur de nombril.
Enfin papa, j'essaie d'être à la mode, d'être comme tout le monde quoi.
Oh, mais tu n'es pas comme tout le monde, tu es ma fille.
Oh, justement, c'est trop drôle.
Non, bah dis donc.
Appâtez-la avec un bon programme télé afin qu'elle reste en famille, à la maison. Les conseils écran jeunesse d'Eva arrivent juste après une nouveauté. Mirabelle Gilis est mieux sec. En sur Europe 1, ça s'appelle En.
Entre parenthèses. En permission. En suspension.
C'était mieux sec sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Dans les mois qui viennent, les psychologues dresseront un bilan. Mais une chose est sûre, l'épreuve du confinement et son cortège d'effets secondaires, apathie, procrastination, réévaluation de nos objectifs de vie, va laisser des traces dans les esprits. L'impact est notamment terrible sur vos ados, qui jadis nourrissaient de grands projets professionnels et qui désormais font preuve, disons, d'un peu moins d'entrain.
Écoute Tati, moi aussi j'ai beaucoup réfléchi et je te considère comme ma mère, hein, je tiens beaucoup à toi et plus j'y pense et plus je me dis, je crois que j'ai envie de faire exactement comme toi.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Bah rien foutre.
Réveillez le battant qui sommeille en votre ado en leur proposant des programmes de qualité. Eva.
Oui, bah, je vais vous proposer de commencer avec d'abord un dessin animé pour les plus petits qui est très mignon, qui t'a retrouvé sur YouTube et qui est intitulé Martin Matin. Alors Martin est un petit garçon de 9 ans et tous les matins, quand il se réveille, eh bien, il va se demander ce qui va lui arriver dans la journée. Alors un peu comme tout le monde, enfin presque, parce que lui, tous les jours, c'est une nouvelle aventure qui débute. Il va se réveiller dans la peau d'un roi, ensuite dans la peau d'un vampire, d'un homme préhistorique, d'un pompier ou encore d'un agent secret. Alors ça le fatigue un peu d'ailleurs, Martin, il aimerait bien être un enfant normal. D'ailleurs ce matin, il s'est réveillé dans la peau de Mathieu Noël, enfin presque. Voilà. Écoutez bien, il est devenu une personne célèbre.
À Martin pour la vie, Sylvie. Martin, tu es le meilleur, Julien. Martin, on t'adore, le fan club de Béton les Bruyères. Vive Martin. À Martin, son fan club des îles Tohubohu. Ben ça, célèbre, ce matin je suis célèbre.
Et alors ça va pas lui plaire énormément cette soudaine popularité à Martin, parce qu'il peut pas faire un pas dans la rue sans être sollicité. C'est d'ailleurs étonnant qu'un dessin animé traite des points négatifs de la célébrité, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Les personnages sont très attachants, des parents aux copains de Martin, et puis à ce côté magique, devenir quelqu'un d'autre tous les jours. Cette possibilité enchantera sans doute vos enfants. 160 épisodes disponibles.
Ça c'est bon.
Chacun 13 minutes, soit 2080 minutes de gagné.
Oh là 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 là.
Plus de 34 heures. Vous êtes peinard, ne me remerciez pas.
Vous avez la date qui vient vous. Vous avez votre enfant, hein. C'est le seul petit problème, voilà. c'est le bémol. Combien de minutes de paix avec les ados?
290. C'est pas mal aussi. Hein. La série s'appelle Blood and Water et compte 6 épisodes. C'est une série sud-africaine pour adolescents donc, et que j'ai dévorée. L'héroïne principale s'appelle Pouling, elle a 16 ans. Elle est issue d'une famille modeste et puis un soir, la voilà, elle est dans une fête organisée dans une villa huppée. Elle rencontre un garçon qui, de toute évidence, est sous le charme. Et puis il lui dit d'ailleurs qu'elle ressemble énormément à Fikele. Fikele, c'est la jeune fille dont on fête l'anniversaire ce soir-là.
Dis-moi, son anniversaire, c'est aujourd'hui ou cette semaine?
C'est aujourd'hui.
Elle est née le même jour que ma sœur.
Ah, c'est cool. Où elle est?
Elle est sortie avec des amis, je crois.
Ah merde! Il faut vraiment que j'y aille.
Alors, sauf que la sœur en question, elle n'est pas du tout sortie avec des amis. Elle a disparu, enlevée il y a 17 ans, quelques jours après sa naissance. Et depuis, ses parents espèrent retrouver sa trace. Et Pouling, elle vit un peu avec ce fantôme à ses côtés. Et la rencontre avec Fikele, cette jeune fille qui lui ressemble tant, va la bouleverser. Elle devient totalement obsédée par Fikele et elle se persuade qu'elle est sa sœur. Et bien, la suite, c'est un thriller avec son lot de rebondissements. Une critique aussi de la société sud-africaine, très divisée entre les riches et les pauvres. Le tout, alors évidemment, parce qu'on est dans une série pour ados avec son lot d'histoires d'amour, de trahison et de dispute d'adolescents, mais parmi toutes les séries destinées aux 13 ans et plus, je trouve celle-ci vraiment au-dessus de l'eau, notamment grâce au scénario, et c'est à voir sur Netflix.
Eh bien, merci Eva pour ces conseils, sachant que j'ai regardé, qu'est-ce que vous avez proposé l'autre jour, White Lines, là.
Oui.
C'est très coquin. Hein.
C'est coquin.
C'est très,
hein.
très coquin. J'ai compris ce qui vous avait plu dans cette série voilà. qui se passe à Ibiza. Une scène un petit peu olé olé.
Vous êtes allé jusqu'au bout ou pas?
D'amour multiple. Je suis allé très loin déjà.
Eh oui, bon, c'est bien.
Beaucoup
c'est bien.
Trop loin. J'ai vu des choses, bref.
Europe 1.
On ne le répétera jamais assez, l'enfer c'est les autres. Déjà que vous avez du mal depuis le 11 mai à reprendre vos marques en société, vous constatez avec effroi que rien n'a bougé en termes de civisme après le confinement, dans la queue au supermarché notamment.
Ce qui vous fait un total de 12,88 €.
Ah non, moi j'ai 12,85 €. On n'a qu'à tout recompter, non, c'est plus prudent. Mademoiselle s'est trompée, ça va? Ça arrive à tout le monde de se tromper, oui.
Soufflez un bon coup en écoutant L'Équipée Sauvage, une deuxième manche se profile.
16h, 18h, L'Équipée Sauvage sur Europe 1.